Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Mes chers camarades, bien le bonjour. J'ai reçu il y a quelque temps en entretien l'historienne Judith Reinhorn, qui est spécialiste de la santé au travail au 19e et au 20e siècle. On a abordé ensemble l'histoire de la révolution industrielle, de l'installation de l'industrie en ville et des conséquences que cela a eues sur l'environnement urbain et sur la santé des travailleurs. Mais avant d'aller plus loin dans l'entretien intégral qui sera disponible dans quelques jours, je vous propose de nous attarder maintenant sur un point majeur. Concrètement, à quoi ressemblaient les conditions de travail dans les usines à cette époque? Étaient-elles fort différentes de celles que l'on connaît actuellement? Et si oui, en quoi? Comment ont-elles évolué tout au long du 19e siècle? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui en nous attardant sur un exemple bien précis, celui des enfants. Alors, bonne écoute. Déjà, avant peut-être d'enchaîner sur cette question de la santé des gens qui bossent dans les usines, quelles étaient les conditions de travail dans ces usines? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, un plein temps à l'époque, c'est pas nos 35 heures.
C'est clair. Alors les conditions, bon, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais les conditions de travail, ben, ce sont des conditions globalement assez désastreuses pour une raison très simple, c'est que d'abord, il n'y a pas de régulation. Donc quand l'industrie naît, il n'y a pas de régulation sur les formes de travail, sur la durée du travail, durée qu'elle soit durée sur la journée ou durée sur l'année. Il n'y a pas de vacances. On travaille généralement au moins 6 jours sur 7 dans l'industrie, voire tous les jours. Et là encore, il y a une diversité de situations. On n'a pas le temps et je pense que ce n'est pas l'objet ici de rentrer dans le détail, mais il y a une diversité absolument massive. Maintenant, je dirais donc globalement, c'est vrai qu'on a l'image portée par la littérature, par Dickens, du travail des enfants par exemple, ou par les grandes enquêtes de l'époque, hein, tout simplement, qui évidemment apportent la connaissance, des connaissances hein, sur les conditions de travail dans l'industrie qui sont absolument désastreuses. On travaille donc tout petit enfant, femme, homme, dans des conditions extrêmement difficiles. Sur le travail des enfants, par exemple, hein, je voudrais quand même en parler deux minutes parce que c'est probablement ce qui, aujourd'hui, nous semble le plus effarant, en quelque sorte, hein, de faire travailler des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Évidemment, les enfants sont utilisés en particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont petits, des enfants, et donc, comme ils sont petits, ils peuvent se glisser dans les machines, sous les machines, etc. Alors, on utilise par exemple les enfants dans l'industrie textile, pour passer sous les machines, quand on commence à vraiment mécaniser l'industrie textile à partir des années 1820-1830, parce que c'est très fréquent, par exemple, que des fils cassent dans les fils à tisser, alors pas dans le fil qu'on tisse, mais dans la trame en fait, hein, du tissu qui est tendu sur les métiers à tisser. Des fils cassent, évidemment, si le fil casse, tout s'arrête. Donc, on envoie des enfants qui passent sous le métier à tisser et puis qui viennent faire un petit nœud, hein, réparer le truc. Sans arrêter la machine. Donc, on imagine le nombre d'accidents, évidemment, absolument colossal. C'est la même chose pour les femmes, qui elles aussi sont plus petites, hein, souvent, et qu'on utilise beaucoup. Les accidents du travail, les cheveux arrachés dans les machines, les membres coupés, les membres écrasés, etc. C'est une réalité absolument, absolument terrifiante. Donc, ce sont des conditions qui sont globalement terrifiantes. On pourrait dire que progressivement, elles vont s'améliorer. Alors moi, qui ai toujours tendance à dire, il ne faut pas voir l'histoire comme un grand récit progressiste qui va toujours vers le mieux. Sur la régulation du travail, on peut dire quand même qu'il y a des améliorations très, très nettes et évidentes hein, au cours du 19e siècle. Si je reprends l'exemple des enfants, ce sont les Anglais. Les Anglais étant entrés les premiers dans le phénomène de l'industrialisation, ce sont aussi les Anglais qui se sont intéressés au travail des enfants. Donc, en 1833, le Factory Act, donc c'est une loi sur les usines, hein, dans l'industrie textile, interdit le travail des enfants de moins de 9 ans. D'accord ? Donc, à partir de 9 ans, on peut travailler et limite la durée du travail en fonction de l'âge. Par exemple, dit les enfants qui ont entre 9 et 14 ans, ils ne peuvent pas travailler plus de 10 heures par jour. C'est vraiment la première régulation importante, c'est 1833 en Angleterre. Progressivement, au cours du 19e siècle, l'âge va augmenter, l'âge de travail des enfants. En France, c'est en 1841, donc une première loi sur le travail des enfants est votée pour le travail dans les manufactures et les ateliers. Attention, ça ne concerne que l'industrie. Du tout la même chose, évidemment, dans l'agriculture, où les enfants continuent de travailler, ou dans d'autres espaces. Et là, en France, en 1941, on fixe le travail des enfants à 8 ans et la journée pour les enfants de 8 à 12 ans de limiter à 8 heures. Et ça ne peut pas être du travail de nuit, ça ne peut être que du travail de jour. Et encore une fois, ça va s'améliorer au cours du siècle, mais il faut faire très attention, ce n'est pas parce qu'il y a une législation qu'elle est respectée. C'est la loi, mais pour autant, on constate qu'il y a encore énormément d'enfants beaucoup plus jeunes que ça qui travaillent. Il y a aussi énormément d'enfants qui travaillent de manière non contrôlée, évidemment, donc beaucoup plus jeunes. C'est le cas dans l'agriculture, mais aussi dans quantité de secteurs industriels ou artisanaux. Donc ce qui va vraiment, vraiment, non pas mettre fin, loin de là, mais mettre un coup d'arrêt assez brutal quand même au travail des enfants, en tout cas le limiter, c'est tout simplement la généralisation de l'enseignement pour les enfants. C'est l'école obligatoire, en fait. Et c'est le cas à la fois donc, avec les fameuses lois Jules Ferry au début des années 1880 en France, mais c'est le cas en Angleterre aussi, à partir des années 80, 90, 1900. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que parce que les enfants vont à l'école, ils ne travaillent pas, parce que bien souvent, et là encore, on a l'image du petit gamin anglais qui, avant d'aller à l'école le matin, se fait le livreur de journaux, par exemple, vend les journaux de 5h, 6h du matin avant d'aller à l'école, ou qui va à l'usine après l'école, ou qui n'est pas scolarisé à plein temps, qui ne va pas qu'une partie de sa journée à l'école. Mais il est clair que la scolarisation, c'est vraiment ce qui va diminuer de manière importante le travail des enfants, même si c'est un peu contre-intuitif, mais la plupart des parents dans les classes populaires se sont opposés d'abord à l'école parce que, évidemment, l'enfant qui travaille, c'est un revenu pour le foyer. Et donc, il y a une concurrence, en quelque sorte, entre l'école et le travail pour les enfants. Et donc, il faudra que l'école devienne obligatoire et aussi qu'elle devienne gratuite, ce qui, évidemment, était un obstacle très important. Et puis, il faut aussi, finalement, le développement des allocations familiales, donc de manière plus tardive, vraiment au début du XXe siècle, et voire au-delà, ou en tout cas de petites allocations qui vont, en quelque sorte, venir compenser pour les parents la perte de sèche de salaire que constitue le fait que les enfants travaillent moins ou travaillent peu, moins, on va dire.
Merci d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.